Moi, je prends le bon chemin, on cherche rien à ça. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi,
C'est l'heure de parole aux auditeurs. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. Les droits de l'homme sont au centre de notre émission. Un nouveau rapport de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en RDC vient d'être rendu public. De ce rapport, il ressort que la situation des droits de l'homme en RDC ne s'est pas améliorée et demeure extrêmement préoccupante, surtout dans l'est du pays. Néanmoins, le rapport reconnaît que des faibles progrès ont été observés et que ces efforts restent encore insuffisants. Les principaux défis à relever en matière des droits de l'homme en RDC sont les arrestations et détentions arbitraires et illégales, les conditions carcérales, la torture et les mauvais traitements en détention, les violences sexuelles, les violations des droits économiques et sociaux et l'exploitation illégale des ressources naturelles, la situation des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des victimes et des témoins, l'administration de la justice et la lutte contre l'impunité des forces de sécurité congolaises. Comment réagissez-vous face à ce rapport et selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC? Notre invité est M. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias. Kirola Meji, Kitim Poutou, Jeff Ngoy, sous la supervision de Nikon Bata, réalise cette émission. Cette fois-là est à la mise en œuvre.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à pa@radiocati.net.
Notre invité est déjà en ligne. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Comme je l'ai souligné, vous êtes porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias. La situation des droits de l'homme en RDC ne s'est pas améliorée et demeure extrêmement préoccupante, c'est ce que dit le rapport. Néanmoins, ce rapport reconnaît que des faibles progrès ont été observés, mais ces efforts restent encore insuffisants. Monsieur Mende, nous allons d'abord suivre les réactions des auditeurs, de quelques auditeurs, aussi des témoignages, aussi quelques propositions, avant que nous puissions vous donner la parole pour échanger sur la question. Nous avons déjà, par exemple, Dieudonné qui est à Arou, il est au bout du fil. Bonjour, Dieu, Jean des Dieux, plutôt.
Oui, bonjour à Dieu, Cathy, bonjour à notre ministre.
Il est à Arou, vous avez suivi les défis qui restent à relever en matière des droits de l'homme en RDC. Est-ce que vous, à Arou, vous avez ce genre de témoignage? Est-ce que vous connaissez cela?
Ah oui, j'ai certainement des témoignages. En RDC, les défis qu'on devait relever d'abord, c'est de nous donner entre nous, de nous donner parmi nous. Parce qu'il y a ceux de l'opposition, des majoritaires, il paraît qu'on ne s'aime pas.
Nous parlons de la situation des droits de l'homme. Est-ce que chez vous, vous avez connu des cas où des droits de l'homme ont été violés? Si oui, vous pouvez donner témoignage, si vous n'en avez pas. Nous allons passer aux propositions.
Oui, il y a là où, par exemple, dans notre prison ici, récemment, il y avait des évasions. Alors, on a tiré sur les prisonniers, il y a certains qui sont morts aussi. Alors, c'est ce que je déclare là, les mangas seulement.
Merci beaucoup, Arou, plutôt Jean des Dieux, pour votre témoignage. Nous avons par exemple Ghislain Mouyoua qui nous a écrit à travers notre adresse internet pa@radiocapi.net. Il nous écrit ceci à partir de Kisangani. Le viol des femmes, les détentions arbitraires, les déplacements forcés vers l'Est sont des graves violations des droits de l'homme. Les autorités devraient reconnaître le rôle des journalistes et autres pour améliorer la situation des droits de l'homme. Il y a aussi Serge de l'Université de Bounia. Il nous écrit ceci. Le droit de l'homme dans notre pays est dans une situation chaotique, à mon avis. Il faut repenser tout le système judiciaire. Voilà, c'est la proposition de Serge de Bounia. Nous allons donner la parole dans quelques minutes à notre invité. Et je rappelle nos contacts. C'est le 081 890 63 15. Le 081 890 63 15. Ou nous écrire à travers notre adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, sans doute vous connaissez, vous avez reçu ce rapport, parce que souvent les rapports sur la situation des droits de l'homme, on ne peut pas les publier sans que le gouvernement soit au courant de la situation. Souvent vous avez eu une position, vous dites souvent que c'est assez exagéré, mais néanmoins vous reconnaissez qu'il y a quand même des violations des droits de l'homme. Dites-nous, qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement pour que ces violations ne soient pas récurrentes?
Les amis qui sont intervenus pour apporter des éléments suite à la question que vous avez posée n'ont donné qu'un cas. Sur les trois intervenants, il y a ce problème d'évasion de prisonniers sur lesquels on aurait tiré. Je ne sais pas ce qu'ils croient que dans le monde entier on fait avec des prisonniers qui s'évadent. Je ne tire pas sur eux, je ne sais pas si nous sommes le seul pays où on tire sur des prisonniers qui s'évadent. Après, le deuxième a parlé de viol de femmes, aucun cas cité. Un troisième a parlé de la situation chaotique des droits de l'homme, mais c'est des mots, c'est du ritualisme, il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas un seul fait qui a été dénoncé comme tel. Maintenant, j'en viens au rapport dont vous parlez, que nous avons reçu, que nous avons examiné. Nous avons estimé qu'il y a quelques éléments du diagnostic qui sont tout à fait corrects, parce que nous-mêmes nous y travaillons, mais nous avons trouvé effectivement la médication proposée par le rapport tout à fait hors du contexte, complètement déplacée, et même certaines affirmations qui ne sont pas du tout avérées. Et nous avons demandé aux auteurs du rapport qui participent notamment aux efforts pour la normalisation de la situation dans ce pays qui sort d'une guerre, parce qu'il ne faut pas parler d'une situation des droits de l'homme sans évoquer le contexte. Nous ne sommes pas un pays qui a vécu normalement au cours des dernières années pour se retrouver en pleine violation des droits de l'homme. Non, on a eu des guerres ici, on a eu 11 armées dans le pays, 55 groupes armés. Je serais étonné que même les États-Unis, avec une situation comme cela, s'en sortent sans des scories qui vont durer même pendant des années. L'essentiel, c'est que les institutions se donnent les moyens de remonter la pente. Et c'est ce que nous faisons. On peut trouver que c'est lent, parce que j'ai entendu dire que les progrès sont faibles, mais les moyens sont faibles. Comment est-ce qu'avec des moyens faibles, vous pouvez faire des progrès fulgurants? Il faut donc travailler au niveau des moyens humains, c'est-à-dire renforcer les capacités du gouvernement, du Parlement, des ONG, et les moyens logistiques, c'est-à-dire renforcer les moyens dont ils ont le contrôle pour pouvoir gérer ce problème qui est effectivement un problème préoccupant et fondamental.
Monsieur le ministre, nous allons aussi écouter d'abord Emina Siston, aussi qui est à Walikale, mais il faudrait dire que tout cela demande un mécanisme, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de communication, de mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement, parce qu'apparemment, ces violations des droits de l'homme perdurent.
Le mécanisme existe, madame. Vous savez qu'il existe au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme une structure qui a été mise en place, un cadre de concertation, on l'appelle comme ça, entre toutes les ONG qui ont en charge la problématique des droits de l'homme, qui est prioritaire pour le gouvernement, et le gouvernement, à travers ce ministre qui a la tutelle du secteur. Et ce mécanisme fonctionne. Mais nous constatons qu'il y a peu de choses qui sont faites pour renforcer justement les capacités de ces acteurs non gouvernementaux congolais. Il y a une sorte d'attitude plus ou moins égocentrique de la part des partenaires de l'extérieur qui veulent agir à la place des acteurs congolais, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, et ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire le bonheur des gens à leur place avec la meilleure volonté du monde.
Souvent, ces structures appuient les structures locales. Mais, monsieur le ministre, nous allons d'abord écouter Emina de Mbandaka, Siston de Walikale, qui vont aussi donner leur point de vue. Mais surtout, cette émission, c'est dans le sens des propositions pour que cette situation que ces Congolais sont en train de vivre puisse diminuer, que la situation soit améliorée. C'est plutôt ça, vraiment, le sens de notre émission de ce jour. Emina, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Oui, Emina, dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour que la situation des droits de l'homme soit améliorée?
Oui, merci madame. À mon avis, ce rapport publié par le haut commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme à l'aide dans l'Est de la RDC tient debout. Madame, vous savez que les grands violeurs des droits de l'homme ils sont connus, sont des nains du pouvoir, entre autres les militaires, les policiers, les magistrats et encore trop loin les hommes de sécurité, aux arrestations arbitraires, aux tortures. Donc, ce sont des gens qui sont courus. Et il ne tient pas compte même de respecter ce qui prévit la Charte internationale des droits de l'homme, hein, madame. Et je voulais vraiment vous dire que pour améliorer cette situation, le gouvernement congolais doit mettre un mécanisme pour améliorer les conditions socio-économiques de ces gens. Madame.
Et à votre avis, concrètement, qu'est-ce qui peut être fait? Parce que là, c'est d'une façon, d'une manière globale, quand vous dites améliorer les conditions socio-économiques, c'est vraiment vague.
C'est-à-dire que pour éviter d'abord des tortures, pour éviter d'abord des arrestations arbitraires, il faut que le gouvernement tienne compte des salaires de ces gens. Des salaires, il faut augmenter leurs salaires avec des salaires consistants pour que ces gens-là ne respectent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont les ténats du pouvoir, ils sont connus, madame, même si dans la profondeur de l'Équateur, même si dans la vie de Bandara, ces gens sont connus. Et cela va dire que non, comme nous sommes dans un état où les textes légaux ne sont pas respectés. Donc ce sont les gens qui ne respectent pas les textes légaux de notre pays. Donc le gouvernement doit mettre un mécanisme de tenir compte de donner seulement des fonds salaires auprès des gens là pour pouvoir puisse améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays.
Merci Emina pour votre intervention. Fiston, vous êtes à Walikale, vous avez la parole. Fiston? Nous avons perdu Fiston de Walikale et s'il est en train de nous suivre en ce moment, vraiment, si c'est possible, qu'il puisse éteindre son poste récepteur parce que là, on n'arrivera pas à le suivre. Mais nous rappelons la fréquence de Walikale, c'est sur 104.9 MHz. Donc, si vous êtes à Walikale, vous pouvez nous suivre sur cette fréquence-là. Et nous avons le message de Stéphane Paloukou. Il nous a écrit ceci, ce rapport est fondé car si les groupes rebelles de l'armée ne sont pas neutralisés, la population ne saura pas ce qu'elle a, elle ne connaîtra pas ses droits de vivre sur son territoire national parce que elle est, la population est contrainte à fuir, aller se réfugier dans d'autres villages et la population est toujours menacée par ces rebelles. Voilà ce que pense Stéphane Paloukou de Dungu. Donc pour lui, il faudrait davantage de sécurité dans ces villages où il y a encore des groupes rebelles armés qui continuent à œuvrer. Nous avons Sengi, il est au bout du fil. Bonjour Sengi.
Bonjour madame et bonjour la radio Capture.
Vous êtes ici à Kinshasa et quel est votre avis et vos propositions?
Ok, madame, je salue d'abord l'invité, le ministre. Et moi, je voulais immédiatement dire que la situation de droits de l'homme à l'RDC est vraiment chaotique. Chaotique sur tous les coins et sur tous les points. Parce que, vous vous souvenez bien, même si à Kinshasa, nous voyons chaque jour, si pas chaque semaine, des violations graves des droits de l'homme.
Vous pouvez en citer parce que là, c'est aussi assez vague et abstrait.
Oui, oui, exactement. Nous allons prendre le cas de nous qui avons déjà subi l'extorsion, par exemple, de par les groupes, les bandes, de qu'on appelle communément ici les Kulunas. Ces gens sont arrêtés, moi-même j'en étais les victimes, j'étais menacé et on m'avait dépouillé de tout ce que j'avais, téléphone, argent, ainsi de suite. Et ces gens étaient arrêtés par la police. Quelques deux jours après, j'ai vu les mêmes personnes qui ont été arrêtées, libérées et venir même me menacer encore me disant, monsieur, ce que vous avez fait, vous pensez qu'on va nous envoyer plus loin? Alors, nous sommes encore là ici, vous avez encore, nous allons vous faire encore plus que ce qu'on a fait avant. Vous voyez. Et ces gens-là sont relâchés partis par la police. Il y a plusieurs cas de ces gens. Alors, nous n'allons pas parler des gens qui sont incarcérés dans la prison de Makala, par exemple. Puisque si vous y allez, en tout cas, vous avez des larmes aux yeux. Alors, moi, je dis toujours, la situation des droits de l'homme, ça reste pour, à mon avis, c'est une théorie. C'est une théorie seulement, mais pour pallier à cette situation. Qu'est-ce que moi je propose? Je propose que la justice fasse vraiment son travail. Une bonne justice, pas une justice théorique. Quand on arrête quelqu'un, il faut qu'on le juge au lieu de le garder, par exemple, pendant autant d'années à la prison, sans qu'il ne soit jugé alors qu'il a commis des délits. Il faut qu'on espère la justice juste pour parler à ce genre d'histoire. Et puis, les activistes des droits de l'homme, et aussi comme victimes, quand quelqu'un demain, on peut le poursuivre. Mais comment on va travailler dans ce climat-là? Donc moi, je demande au gouvernement d'instaurer vraiment la justice, que les coupables soient punis et ceux qui sont victimes soient aussi récompensés, madame.
Que les victimes soient protégées, peut-être parce que récompensées, bon, ça,
oui,
ça dépend de...
récompensées, oui, les gens vont être protégés, et puis, surtout, mettre les malfaiteurs vraiment en prison, pas les relâcher parce qu'ils viennent encore vous procéder des menaces, et peut-être qu'ils commettent encore des vues plus graves que ce que c'est.
Donc, renforcer l'administration de la justice, le système judiciaire, mais aussi, là, vous avez soulevé aussi la lutte contre l'impunité et la sécurité des victimes. Voilà ce que vous proposez.
Oui.
Merci pour votre intervention. Nous prenons aussi son dos à l'Italie. J'espère que cette fois-là, il est au bout du fil. Il pourra aussi donner son avis. Fiston, vous avez la parole.
Ah, merci pour avoir m'accordé la parole. Et je suis désolé par rapport à un réseau téléphonique de Vodacom qui m'a mis à... par rapport à l'intervention. Vous savez, le ministre Lambert même, quand même, il doit quand même accepter quelque chose par rapport aux violations et aider le rapport sur les violations des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai des preuves palpables parce que la fois passée, c'était le lundi. Je participais à une situation qui est totalement amertine, c'est l'acte de Niassi, où j'ai accompagné le motard au niveau de Niassi. En arrivant là-bas, il y a eu le problème entre le militaire affecté au niveau de Niassi, entre autres les groupes armés qui font quoi. Et le même militaire-là voulait, n'est-ce pas, tirer pour ça, les montagnes qui discutaient avec, pendant que ce sont eux qui ont violé, n'est-ce pas, les droits de ces montagnes-là. Et c'est une chose déplorable en territoire de Wallis-Italie. Par-ci, par-là, il y a des arrestations arbitraires. Vous allez voir la prison centrale de Wallis-Italie. C'est dans un état de labrement très avancé. Et je vous dis, aujourd'hui, nous considérons que les prisonniers qui se retrouvent dans cette prison centrale de Wallis-Italie sont des prisonniers gentils. Parce que cette prison actuellement vraiment n'a pas cette capacité
de garder ces gens. Fiston, vous avez fait des témoignages, les conditions carcérales, vous dites aussi lutter contre l'impunité, voir comment éviter certaines exploitations. Mais dites-nous, Fiston, quelles sont vos propositions? Allons-y aux propositions.
Mes propositions est suivante. La première proposition, j'aimerais à ce que le ministre concerné par rapport à ces situations, qu'il fasse des descentes sur le terrain en vue de voir comment est-ce que la situation qui se passe dans les lieux. En deuxième lieu, il fallait que la justice renforce les capacités, n'est-ce pas, de militaires et également les capacités des policiers en vue d'améliorer les conditions de vie. Parce qu'il n'est pas concevable de diriger quelqu'un pendant que ce dernier aussi ne sait pas comment il doit travailler et laisser le travail à la personne concernée et à la suite de la personne dont il a commis des dévis. Donc il fasse des descentes sur le terrain en vue de voir comment est-ce que la situation se passe sur le terrain dans l'intérêt du pays.
Oui, mais n'oublions pas que dernièrement, quand même, le ministre de la Justice et des Droits Humains avait fait une tournée dans presque la plupart des prisons de la RDC, mais néanmoins, vous souhaitez qu'on puisse améliorer quand même les conditions de vie des militaires ou bien des agents de la sécurité, et vous pensez qu'ainsi, ça pourrait réduire le nombre des cas de violations des droits de l'homme. Merci, Fiston de Wallis-Italie, pour votre intervention. Nous allons redonner la parole à notre invité. Comme je le rappelle, que c'est M. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, nous revenons à vous. Nous avons eu encore eu des cas, des témoignages de certains auditeurs, mais aussi des propositions en vue d'éviter et de réduire d'une manière ou d'une autre ces violations et pouvoir donc, d'une manière ou d'une autre améliorer les conditions de ces citoyens. Monsieur le ministre, que pensez-vous de ces propositions?
De la plupart de ces propositions, j'y reviendrai. Nous y avons déjà pensé, et c'est une bonne chose que certains de nos compatriotes pensent exactement dans le même sens que nous. Mais je voudrais aussi rassurer ceux de vos auditeurs qui insistent sur le fait que le rapport tient debout, le rapport est fondé, comme si nous disions que le rapport ne tenait pas debout, qu'il n'était pas fondé. Non, nous avons dit que le rapport est fondé. Nous avons salué le diagnostic. La seule chose que nous avons dit à l'auteur de ce rapport, parce qu'il n'est pas Monsieur Tout le Monde, c'est quand même une institution des Nations Unies qui collabore avec nous, c'est qu'il faut aller au-delà du diagnostic. Vous critiquez, messieurs, allez un peu au-delà.
Mais il y a eu des recommandations,
donc nous sommes d'accord que le rapport est fondé, il ne faut plus qu'on y revienne.
Mm-hmm.
Maintenant, on dit les violeurs, je crois que c'est un des premiers intervenants, il dit les violeurs sont commis illicites, militaires, policiers, magistrats, point. Alors, moi, de poser la question, chers frères, et les FDLR, c'est fini? C'est des gens gentils, c'est des frères? Et la LRA, c'est fini? Et les VNL, c'est fini? Et les Kuluna, puisqu'il y a un autre qui a parlé des Kuluna. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait des commentaires politiquement orientés, on laisse de côté une partie importante du problème.
Apparemment,
nous pensons que le vrai problème des violations des droits de l'homme aujourd'hui, il est bien sûr général, mais la partie la plus dramatique, c'est à l'Est. Et elle est dramatique à l'Est à cause des FDLR, à cause des LRA, et même s'il y a des graves problèmes à Kinshasa, c'est aussi à cause des Kuluna. Or, le gouvernement n'est ni FDLR, ni LRA, ni Kuluna. Ces gens-là sont des ennemis du gouvernement, comme ils sont les ennemis des Congolais ordinaires et nous les combattons. Maintenant, on peut nous critiquer en disant peut-être qu'on ne met pas suffisamment de moyens pour les combattre. Nous mettons des moyens. Sont-ils suffisants? Certainement que non. Est-ce que nous pouvons plus? C'est quelque chose qu'on peut discuter. Maintenant, je voudrais aussi reconnaître la pertinence de l'intervention de notre auditeur de Dungu, M. Paluku, qui parle des groupes armés qui doivent être neutralisés. Vous voyez que ça contredit le premier qui a parlé de militaires,
policiers,
mais nomme les groupes armés qui doivent être neutralisés. Mais nous avons au front aujourd'hui les FRDC qui se battent. Peut-être qu'ils n'ont pas tous les moyens, peut-être qu'ils ne font pas des miracles, mais il n'y a aucune armée qui fait des miracles au monde. Hein. Même la première armée du monde en Libye, vous voyez, c'est un pas en avant, trois pas en arrière. Ce sont les aléas d'une situation de guerre. Nous faisons la guerre à ces gens-là, le frère doit être tout à fait rassuré. Il faut que, par rapport à ce que notre ami Stéphane a dit, parlant des extorsions par les Kuluna, il faut éviter la confusion entre les problèmes de violation des droits de l'homme, qui sont souvent le fait d'institutions, et les problèmes de la criminalité. On ne peut pas dire que les Kuluna sont chargés de protéger les droits de l'homme au Congo et qu'ils violent les droits de l'homme, ou on ne peut pas dire que les Kuluna sont des agents du gouvernement et qu'ayant été extorqué par les Kuluna, il est victime de la violation des droits de l'homme par le gouvernement.
Non, mais là, il est retombé sur dans la lutte contre l'impunité.
Bien sûr, la lutte contre l'impunité, nous la menons. Je ne pense pas que vous ignorez ou que Stéphane ignore combien de charretiers, combien de charters nous n'avons pas envoyé à l'intérieur du pays, que ce soit à Bulawayo, que ce soit à Osio, dans la province orientale, à Andinga de Kuluna. Nous sommes même critiqués souvent. On dit pourquoi vous envoyez seulement les Kuluna et vous n'envoyez pas les Kuluna en cravate. Voilà que maintenant on nous accuse de ne pas suffisamment nous occuper des Kuluna. Nous, nous en occupons et nous cherchons les moyens pour nous en occuper davantage. Le vrai problème qu'il a soulevé, et je suis d'accord avec lui, c'est cette impunité que l'on remarque parfois au niveau des institutions judiciaires, où des gens sont remis à des magistrats et relâchés pour des raisons procédurières. Peut-être que le magistrat a de bonnes raisons, mais la société a du mal à comprendre cela. C'est pourquoi nous avons décidé de remettre le parquet sous le contrôle du ministère de la Justice pour que nous soyons, nous aussi, comptables de l'action du parquet qui doit traîner tout malfaiteur devant les juges.
Je pense que ça ira de plus en plus mieux parce que le ministre de la Justice est en mesure maintenant de donner des injonctions au parquet pour éviter justement ce dysfonctionnement que Stéphane a dénoncé.
Oui, monsieur le ministre, nous allons suivre Julien de Isiro Kikuli de Goma. Et je rappelle les contacts à tous ceux qui veulent participer à cette émission. C'est le 081-890-6315, 081-890-6315. Et nous débattons aujourd'hui de la situation des droits de l'homme en RDC avec ce rapport de la commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui il ressort de ce rapport que la situation des droits de l'homme en RDC ne s'est pas améliorée et demeure extrêmement préoccupante, surtout dans l'est du pays.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Julien.
Oui, merci, bonjour madame.
Oui, vous êtes à Isiro, nous vous écoutons.
Oui, merci beaucoup. En tout cas, je salue tous les auditeurs de la radio partie et nos invités de notre sujet, de monsieur le ministre. Bon, je voulais juste intervenir ici pour le problème des droits de l'homme au Congo. En tout cas, pour moi, la dame, selon l'observation spéciale, il n'y a pas eu vraiment des avancées dans les droits de l'homme au Congo. Comment? Parce que j'ai un témoignage propre dans ma famille. Une fille de 4 ans qui a été violée et jusqu'à elle-même à la mort. Donc il s'appelait ainsi au niveau du territoire de Ouattara.
Et ces violences, on dit vous avez été violée par qui est l'auteur de ce viol?
La justice du viol a été saisie, mais jusqu'à ce que je pense qu'il n'y a pas de suivi pour ces policiers. Si on sait, les gens cherchent la justice sont dans leur travail.
Là, Julien, on a des problèmes de liaison. On n'arrive pas à vous suivre correctement, mais vous faites allusion d'un viol. Et lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, c'est du fait que l'auteur, du côté de la justice, il n'y a pas eu de suivi. C'est un peu, je n'arrive pas à suivre ce que vous êtes en train de dire. Mais le temps que vous puissiez changer de position, peut-être vous sortir, si vous êtes dans une maison, essayer de sortir dehors, peut-être la qualité peut s'améliorer pour que nous puissions bien suivre ce que vous êtes en train de décrire. Mais surtout, vos propositions, nous prenons d'abord Kikuli de Goma. Bonjour Kikuli.
Oui, bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les auditeurs.
Madame, on vous écoute Kikuli.
Oui, je voudrais seulement plaire à notre gouvernement, maman Marie Chantal Lumba, de faire à ce que les gens des droits de l'homme se sentent quand même à l'aise. Vous savez, les gens des droits de l'homme travaillent beaucoup pour l'intérêt de certains citoyens les Congolais. Vous verrez par exemple un citoyen qui est arrêté dans une prison et les motifs que ce monsieur a fait n'ont pas quand même de grave. Et même si une personne des droits de l'homme écoute cela, va intervenir à ce que la personne soit sortie. Vous verrez aussi de certains, beaucoup de problèmes et beaucoup d'exemples que les gens des droits de l'homme intervenir pour que donc, les gens se sentissent quand même à l'aise.
S'il vous plaît, Kakouli, vous avez constaté que les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas suffisamment protégés. C'est ça le sens de votre intervention.
C'est ça que je voudrais aussi ajouter, maman Marie Chantal. Vous savez, la personne qui travaille à l'intérêt de beaucoup de personnes, cet individu-là, cette personne-là, doit être protégée, doit se sentir à l'aise pour que qu'il se force pour qu'il réalise tout ce qu'il peut faire pendant la journée et pendant la raisonnement.
Vous souhaitez que vous mettiez une proposition. Allons-y directement aux propositions. Vous êtes en train de nous expliquer que vous avez constaté que les défenseurs ne sont pas suffisamment protégés. Mais à votre avis, quelles propositions vous pouvez faire si vous constatez cela pour que ces défenseurs puissent travailler correctement sans être menacés ou qui ne sont pas suffisamment protégés?
Oui. C'est ce que j'ai dit encore, maman Marie. Je demande seulement à notre gouvernement à prendre de certaines propositions pour que ces gens-là se sentent quand même à l'aise et qu'ils travaillent pour l'intérêt des personnes parler pour se libérer des droits de certaines personnes. Il y a de certaines personnes qui ne connaissent pas même de certains droits et les membres des droits de l'homme qui parlent en leur place.
Merci beaucoup, Kikuli. Je rappelle que vous intervenez de Goma. Cette fois-là, on a pu recontacter Julien. J'espère que cette fois-là, la liaison téléphonique s'est améliorée. Julien, nous vous écoutons.
Oui, je parlais juste d'un cas de la violence. C'est ma fille, une fille de la famille, ma fille cadette.
Mais vous êtes en train de parler de l'impunité, la lutte contre l'impunité, parce que vous avez constaté que l'auteur a été relâché, ou qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, l'auteur n'a pas été détecté, on veut dire, mais jusqu'à ce niveau, la justice s'est séparée de ses parts. Alors, si vraiment on pouvait observer avec beaucoup d'attention notre armoire, ainsi que notre...
En tout cas, Julien, là, ça, on n'arrive pas vraiment à vous suivre correctement, vous sortez vraiment, on vous écoute, vous êtes entrecoupé, on n'arrive pas à saisir correctement ce que vous êtes en train de nous dire. Julien, quand même, écoutez, restez branchés sur Radio Capi, nous poursuivons cette émission sur la situation des droits de l'homme et notre invité est Monsieur Lambert Mende, il est porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, et je rappelle les contacts 081-890-6315, 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Avant de remettre la parole à notre invité, Monsieur Lambert Mende, nous allons suivre, nous avons au bout du fil, Monsieur Kivis, il est défenseur des droits de l'homme, il est de l'organisation Journaliste en danger. Nous avons eu ce rapport, c'est sur base de ce rapport que nous avons tenu aujourd'hui cette émission, mais nous savons que vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, vous faites un monitoring sur tout ce qui concerne les journalistes. Dites-nous, actuellement, à votre avis, au regard de ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation?
Mais nous avons toujours pensé d'abord qu'avant de parler de la situation des droits de l'homme, il y a des préalables, il y a des prérequis, il y a des conditions préalables qui nécessitent d'abord d'être remplies pour qu'on puisse créer des conditions d'un meilleur exercice dans, non seulement de la liberté de la presse, mais de la défense de tous les autres droits de l'homme. Parmi ces conditions, nous pensons d'abord qu'il y ait la paix dans un pays. C'est pas quand ça tire, quand il y a la guerre, c'est pas sur un champ de bataille que vous allez demander qu'on puisse respecter les droits de l'homme ou la liberté de la presse. Deuxième condition, il faut un minimum de démocratie dans un pays. Ça veut dire la démocratie entendue comme un régime de liberté où les libertés sont reconnues et respectées, parce que le contraire de la démocratie, c'est la dictature et la tyrannie qui sont par définition des régimes d'oppression des droits de l'homme et donc même de la liberté de la presse. Et la troisième condition, c'est qu'il y ait un minimum d'État tout court. Je ne vais pas parler de l'État de droit pour faire effectivement respecter les droits de l'homme de manière générale. Alors, parlant de l'homme, je pense que si on ne peut pas parler des droits de l'homme dans la presse, les droits de l'homme, c'est pas des choses abstraites, c'est des choses précises, c'est des droits spécifiques des gens qu'il faut défendre. Et là-dedans, vous avez les droits à la vie, vous avez le droit à la liberté d'opinion et d'expression, vous avez le droit à la liberté de la presse, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit à la santé. Donc, autant de droits de l'homme qui sont pour la plupart liés dans l'homme, mais qui sont aussi garantis par des textes nationaux et internationaux. Et donc, concernant tous ces droits, y compris la liberté de la presse, nous avons toujours pensé que ce ne sont pas des cadeaux d'un prince, ce ne sont pas des privilèges qu'on donne à des citoyens et que quelqu'un peut décider du jour au lendemain de respirer quand cela lui plaît. Alors, tout ce qui s'agit de droits, les droits, il faut les faire respecter, les droits
il faut les dépenses.
Mais c'est vrai qu'il
existe des organismes qui sont chargés de protéger ces droits, mais je pense que la responsabilité première incombe d'abord aux personnes qui sont victimes de ces droits de les faire dépendre par tous les moyens. Évidemment, par tous les moyens de droit. Et parmi ces moyens de droit, il y a également, effectivement, la justice. Mais comme je dis, dans notre pays, concernant la liberté de la presse, le problème, c'est, et tout le monde le dit, le problème, c'est la justice. La justice, dans notre pays, c'est encore. Au niveau où personne ne la fait confiance, au niveau où on pense que la justice est encore au service de ceux qui ont le pouvoir politique ou économique. Et donc, cette justice ne rassure pas tout le monde, et c'est ça qui fait le problème dans notre pays en ce qui concerne les droits de l'homme.
Donc, pour vous, il faudrait nécessairement, comme l'a souligné d'autres auditeurs, renforcer vraiment le système judiciaire, que la population puisse avoir confiance en ce système. Mais actuellement, c'est vrai qu'il y a eu ce rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, mais vous, à votre niveau, vous êtes sur le terrain, quel est votre diagnostic?
Évidemment, quand le diagnostic n'est pas le fait de nouvelles, quand on lit les discours officiels, compris des membres du gouvernement, quand on lit les rapports des organisations internationales, y compris les organisations, la situation sur le plan des droits de l'homme de manière générale, et même de la liberté de la presse, n'est pas ce qu'on voulait qu'elle soit. S'il faut faire un tableau, je dirais que la situation n'est pas rose, mais n'est pas tout à fait sombre dans tous les cas. Mais vous savez que dans notre pays, au moment où nous sommes en train de parler, il se tient un procès sur les prisonniers assassins d'un éminent défenseur des droits de l'homme dans notre pays. Quand on suit l'évolution de son procès, tout indique que cet éminent défenseur des droits de l'homme a été assassiné à cause de son travail de défenseur et à cause de son qualité en tant que défenseur de l'homme. À partir de ce moment-là, je pense qu'on n'a pas besoin d'autres dessins pour savoir que les droits de l'homme dans notre pays et ceux qui les défendent sont en permanent danger de mort.
Mais attendons quand même le verdict, ça pourra nous permettre de mieux cerner cette situation. Et comme vous l'avez dit, il y a déjà beaucoup de spéculations, mais aussi ce que les gens ont constaté eux-mêmes en essayant de faire une lecture des faits, mais attendons quand même ce verdict. Merci beaucoup.
Après, je suis d'accord, je dis que les indices, c'est-à-dire si on peut faire tel que ce que vous voulez jusqu'à présent, effectivement, tout indique que nous le disons que Béa n'a pas été tué parce qu'il était vendeur de poules, c'est parce qu'il était défenseur de l'homme, c'est à cause certainement de son travail, et il a eu des problèmes.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tillis, pour votre intervention. La proposition que vous avez faite, c'est plutôt vraiment qu'on puisse renforcer ce système judiciaire au regard de la situation sur le terrain. Nous vous remercions encore une fois. Nous allons écouter Madame Pauline, qui est présidente des femmes entrepreneurs. Bonjour, Madame.
Bonjour, Madame.
Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une femme au cours de cette émission, parce qu'elles sont rares, mais nous encourageons toutes les femmes qui veulent participer à cette émission, le 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet crea@radiocapi.net. Madame Pauline, nous vous écoutons.
Et merci beaucoup, madame la journaliste. Je suis vraiment heureux et content et très vraiment ravi d'intervenir sur ce mission. Je voulais simplement vous dire que pour les droits de l'homme dans notre pays, ne dépend pas de ministre d'économie, de ministre des communications, quoi qu'il soit. Ça dépend que nous tous, les Congolais, le gouvernement puisse vraiment entrer tout entier sur les droits de l'homme. Pourquoi je dis cela? C'est parce que je vais vous donner un exemple typique de moi-même. Vous venez de m'appeler la présidente des femmes entrepreneurs du Congo. Pas seulement que je suis la présidente, je suis une femme entrepreneur dans la fédération, notre fédération des hommes d'affaires FEC. Mais tu sais, madame, que hier, moi je ne suis pas ici, je suis arrivé que hier, mais j'ai trouvé chez moi, vous connaissez chez moi, dans mon entreprise où nous sommes déjà espérés, un mandat d'amener. Qu'est-ce que le mandat d'amener dit? Le mandat d'amener dit qu'on doit amener madame Mona ou bien un certain métier capable. Pourquoi détournement des deniers publics de l'État? Vous comprenez un peu? Détournement des deniers publics de l'État. Un individu comme moi, une femme comme moi, je ne suis pas mandateur des sociétés de l'État, mais je peux détourner des deniers publics de l'État. Vous pouvez comprendre les termes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a fait le droit juridique. Je connais au moins qui se demandait d'amener. Ne pouvait pas avoir deux personnes à la fois, et une autre sobriquet, et non, un certain tabac que je ne connais pas, et aussi moi, je m'appelle Madame Mona, Pauline Kayoko, on a mis mon HB, je ne sais pas c'est qui, et aussi on me dit détournement des deniers publics et de l'État.
Heureusement que madame, vous avez quand même des bribes de connaissances de la langue, ou bien de la procédure judiciaire, mais vous pouvez, ou bien vous n'avez pas confiance, peut-être aller vous présenter et savoir ce qui se passe et décrire s'il y a bribes de procédure.
Et j'ai trouvé ce mandat d'amener, il est là, il est signé, et l'objectif dedans, des amendements d'amener, on m'a jamais appelé, entendu, on m'a jamais convoqué, mais on me dit là-bas, détournement public de l'État. Bon. Ça veut dire, moi j'ai détourné le bien de l'État.
Mais allez,
je ne sais pas de quel titre, je ne sais pas, mais dis-moi un peu.
Allez-y.
Le ministre est au courant de ça. Il n'est pas au courant.
S'il vous plaît, madame, allez-y vérifier ce qui se passe.
Oui, allez-y.
S'il vous plaît, madame, notre émission sur la situation des droits de l'homme, vous avez donné un témoignage de ce que vous avez vécu. Il dépendra de ce que vous allez découvrir lorsque vous allez vous rendre à ce mandat. Vous allez voir ce qui se passe à ce niveau-là. Mais dans cette émission, quel est l'apport, les propositions, à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à la situation des droits de l'homme, parce qu'on a dit les principaux défis à relever, les arrestations et détentions arbitraires et illégales, les conditions carcérales, la torture, les mauvais traitements en détention, les violences sexuelles, améliorer l'administration de la justice et aussi se battre dans la lutte contre l'impunité. Madame, à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait?
Oui, à mon avis, je pense que tout Congolais que nous sommes, on doit d'abord avoir la conscience de nous-mêmes, on se reproche. On ne peut pas mettre l'argent devant la vie, on ne peut pas mettre l'argent devant notre pays, on ne peut pas vendre notre pays à cause de l'argent. C'est tout problème. J'ai tout donné la vie de premier intervenant qui a parlé. Il a dit qu'on puisse améliorer la condition des magistrats, de quoi qu'il soit. Mais je pense que ce n'est pas ça. Parce que si vous partez aujourd'hui en Afrique du Sud, vous allez trouver que la population, les Sud-Africains, applique elle-même les lois. Ils ne peuvent pas vendre leur point de vie à cause de l'argent. Mais chez nous, ici, on peut prendre notre pays à cause de l'argent. Non, c'est le problème de conscience de tous ces Congolais, de savoir qu'ils peuvent rester, appliquer ce qu'ils mangent, ça veut dire manger tout ce qu'ils peuvent manger, mais de ne pas vendre son pays à cause de l'argent. Ça veut dire que nous devons s'impliquer pour que le droit de l'homme puisse s'appliquer au Congo. C'est un problème de tout Congolais.
Merci beaucoup, madame. Pour vous, c'est une question de conscience. Il faudrait que cette conscience puisse renaître, comme vous essayez de l'expliquer. Et nous rappelons que c'est la première femme que nous avons eue sur nos antennes. Et nous encourageons les femmes à bien vouloir s'exprimer, surtout sur des sujets qui vous intéressent. Nous avons Franck de Vienne qui nous a écrit. Il écrit ceci: la situation des droits de l'homme chez nous en RDC ne va pas s'améliorer sans certains préalables tels que l'indépendance totale du pouvoir judiciaire. Il faut combattre toute tendance d'impunité, il faut éviter les interférences lors des procédures judiciaires, il faut l'égalité des citoyens, il faut repenser les conditions de vie des citoyens, avoir une politique salariale proportionnelle au train de vie au quotidien, aussi afin d'épargner les juges et magistrats de toute tendance de manipulation. Voilà ce que nous écrit Franck. Il est à Vienne, en Autriche. Nous allons redonner la parole à notre invité. Je rappelle que c'est M. Lambert Mendé, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Okapi vous propose la cellule de la presse. Des analyses, des explications et un débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La cellule de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. La cellule de la presse, c'est l'actualité vue par ceux qui la traitent. C'est aussi sur le site internet de Radio Okapi, www.radiookapi.net.
Nous poursuivons cette émission, Monsieur Lambert Mendé. Vous avez suivi cette dernière série d'auditeurs. Nous avons eu Madame Pauline qui est revenue sur la conscience. Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont posés, qui effectivement méritent d'être posés. Il y a un sérieux problème de dysfonctionnement que nous avons évoqué d'ailleurs lorsque le gouvernement a pris la décision de proposer à l'Assemblée nationale et au Sénat cette révision de la disposition constitutionnelle concernant le pouvoir judiciaire. C'est en raison justement de ces dysfonctionnements, nous avons voulu être effectivement comptables de ce qui se passe au niveau du parquet. Vous savez, ce qui se passe au niveau de la magistrature assise, ça ne peut pas nous concerner, c'est l'indépendance. Un juge décide conformément à sa conviction, mais au niveau du parquet, la magistrature debout, là où on décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre, de présenter un tel criminel devant la justice ou de ne pas le présenter, là, nous avons décidé que, comme tous les gouvernements du monde, ça relève de la politique criminelle d'un État et que nous devions effectivement participer pour améliorer. Donc, je suis tout à fait sensible à l'argumentaire qui est développé par notre sœur Pauline Mona, que je salue. J'entends aussi pas mal d'idées positives de vos auditeurs qui ont envoyé des mails sur les propositions d'amélioration. Je dis que nous y sommes. Ça fait quand même 2 ans que nous sommes en train de mettre en œuvre un programme de restauration de la magistrature, donner à la magistrature des moyens en ressources humaines, lui donner des moyens en ressources matérielles. On est en train d'équiper. C'est lent. Il y a un programme Régisco où nous reconstruisons même les palais de justice, où nous les équipons. Mais vous savez, un pays est limité par ses moyens budgétaire. Nous avons aussi noté la mise en cause de la justice par nos amis de journalistes en danger. Évidemment, nous ne sommes pas la justice, elle est indépendante, elle peut se défendre, mais j'ai retenu que pour nos amis de JED, la situation n'est pas rose, c'est vrai, mais qu'elle n'est pas tout à fait noire non plus. Je salue l'honnêteté de cette diagnostic. Donc, je voudrais dire qu'ici, je n'ai pas entendu des cas de violation massive, au sens où la situation du Congo est en train d'être dépeinte, notamment dans certains rapports à l'étranger, qui dramatisent. Il y a des problèmes de dysfonctionnement, il y a des problèmes d'arbitraire, il y a des problèmes de corruption, mais qui sont le fait d'individus qui sont dans les institutions, et nous avons, avec le programme Tolérance Zéro, décidé de nous en occuper. Et soyez certains qu'il y a des magistrats qui sont déjà tombés, au moins 2 sont en train de passer en jugement, dans le cadre du programme Tolérance Zéro, et ceci va se poursuivre. Mais je voudrais insister sur ce que notre ami Timis et Maman Pauline ont dit, c'est que la première responsabilité à cet égard pour la défense des droits de l'homme relève du détenteur du droit lui-même. Si vous êtes victime d'une violation des droits de l'homme, surtout le frère là qui m'a touché par son récit, d'une gamine de 4 ans, violée, morte, et que le dossier se trouve classé presque sans suite, si telle est la situation, ça nous révolte. Mais si lui n'attend pas la peine d'aller au-delà du juge local qui a classé sans suite, parce que ce juge, il a des supérieurs, cette juridiction a une juridiction au-dessus d'elle, qui peut appeler le dossier, qui peut passer cette décision de classement sans suite, eh bien, il risque de ne rien se passer, et nous resterons simplement à nous lamenter, les droits de l'homme sont violés. Il faut que les détenteurs des droits, les victimes, fassent un effort pour aller vers les niveaux où les choses peuvent être prises en main, et c'est là le travail des associations des droits de l'homme dont nous saluons le courage. Ce qui est arrivé à notre frère Kébéa, c'est un crime. Le gouvernement le condamne, le gouvernement a décidé de mettre le paquet, donner à la justice les moyens. C'est pourquoi il y a un procès. Donc on ne peut pas nous reprocher un acte criminel qui est dirigé d'ailleurs contre l'État que nous dirigeons aujourd'hui, et ces gens seront punis. Attendons le procès, attendons l'issue du procès, et ne nous abritons pas derrière ce crime commis contre l'État pour condamner l'État.
Oui.
Voilà ce que je peux dire.
Oui, monsieur le ministre, n'oublions pas que, parce que souvent, vous êtes en train de décrier ces rapports de l'étranger, n'oubliez pas que ces rapports ont été confectionnés avec les ONG locales. Ça ne vient pas du ciel, mais là, n'est pas notre problème.
Nous allons... Son rapport, il le signe, et nous, nous voyons la signature
nous allons...
dessus, qui sont à l'étranger.
Nous allons écouter Dismas Kitenge, et puis, comme vous avez beaucoup à faire, vous avez déjà accordé presque 50 minutes. Nous allons écouter Dismas Kitenge et Martin de Bandundu. Nous allons vous redonner la parole pour que nous puissions conclure avec vous. Mais nous rappelons à nos auditeurs que nous avons une seconde partie nous aurons 15 minutes après 11h heure de Kinshasa. Dismas, vous avez une minute. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup, madame. Je vais intervenir sur deux points rapidement. Le premier point, c'est le constat de violation. Effectivement, la situation au Congo est grave en matière de droits de l'homme. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se cache la face. Je vais donner quelques exemples de graves violations de droits de l'homme. La question de la protection de la population civile dans les Kivu, dans la province orientale, où la population est la cible aujourd'hui non seulement des groupes armés étrangers, le FDLR et l'ERA, mais aussi des forces des armées de la République démocratique du Congo qui pillent, qui incendient, qui violent aussi les femmes. Et c'est pour cela qu'il y a eu quelques actions en justice, mais on dit quand même qu'il y a beaucoup à faire. Donc sur ce point-là, je crois que le ministre serait d'accord. Sur un autre point, le cas de violation des droits de l'homme dans les cas de la lutte contre l'impunité, il faut aujourd'hui ressortir le cas de Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda qui est sous mandat de la Cour pénale internationale et qui en principe doit être livré à la Cour par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de prétexte. Le Congo a signé le statut de Rome. Le Congo a l'obligation de coopérer avec la Cour. On note qu'il y a eu quand même quelques actions de coopération, mais pour le cas de Bosco Ntaganda, aujourd'hui, c'est un défi. Un défi non seulement dans le cadre de la lutte contre l'impunité, mais aussi un affront pour les victimes des crimes qui ont été commis par Bosco Ntaganda. Et Bosco Ntaganda est encore dans le Nord Kivu où il a commis ces crimes-là. Je vais donner un autre cas concret. C'est le cas d'Armand Tungulu. Les conditions dans lesquelles Armand Tungulu a retrouvé la mort dans les geôles de la garde républicaine, et où vraiment il y a un mystère sur sa mort. Et là encore, c'est aussi un cas qui aujourd'hui constitue un défi important.
Oui, s'il vous plaît.
Les morts dans les cadres de détention.
Oui,
je vais terminer rapidement, madame, comme vous le dites, par des recommandations.
Oui, et je voulais aussi signaler, parce que la réalisation me fait signe, que vous êtes monsieur Dislaski. Vous faites partie du groupe Lotus, donc une structure de défense des droits de l'homme. Nous pouvons passer directement aux propositions que vous avez à faire.
Je voudrais vraiment dire au gouvernement qu'il faut vraiment créer une volonté politique réelle et une culture de respect des droits de l'homme. Volonté politique, ça veut dire qu'au-delà des textes, il faut vraiment qu'on sente que le gouvernement respecte les libertés fondamentales. Les libertés d'expression d'opinion. Il ne faut pas considérer les ONG du droit de l'homme comme des contestataires. Et à chaque fois qu'il y a un rapport, le gouvernement est toujours dans la défensive. Je suis heureux qu'on accepte aujourd'hui les rapports de la haute commissaire. Donc, volonté politique et aussi culture réelle de droit de l'homme. Et deuxièmement, c'est la question aussi du renforcement du système judiciaire congolais. Quand on parle du renforcement du système judiciaire congolais, nous souhaitons vraiment qu'il y ait une loi de mise en œuvre du statut de Rome qui doit être adoptée le plus rapidement par le Parlement congolais, qui permettrait aux tribunaux congolais d'être compétents aussi pour poursuivre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, en fait de compléter les actions de la Cour et aussi combler les fossés de l'impunité pour les crimes du passé.
Oui, bon.
Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que c'est la collaboration réelle dans la mise en œuvre de recommandations par des organisations nationales comme des organisations internationales. Le gouvernement ne nous montre pas suffisamment le plan de mise en œuvre de ces recommandations.
S'il vous plaît, monsieur,
la commission de droits de l'homme.
Monsieur Kitenge, s'il vous plaît, nous allons rester avec vous le temps que nous puissions libérer le ministre Lambert Mende, parce qu'il nous a accordé quand même 60 minutes d'émission, presque une heure. Nous vous gardons en ligne, Monsieur Dismas. Nous allons essayer de poursuivre cette émission 15 minutes après 11 heures. Monsieur le ministre, vous avez suivi encore cette série d'auditeurs et quel est votre avis, mais surtout aussi en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans la lutte contre l'impunité, dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC?
Je dois noter d'abord la forte préoccupation de ceux qui sont intervenus pour une lutte confirmée contre l'impunité, et je pense que là nous sommes sur la même longueur d'onde qu'eux. Je dois aussi noter une certaine tendance à monter en épingle, ça je dois le dire, monter en épingle des incidents qui sont plutôt isolés et dus à des comportements criminels d'individus que par ailleurs le gouvernement poursuit. Mais lorsqu'on veut faire une lecture à travers le prisme de la politique politicienne, on veut rendre le gouvernement responsable des actes d'individus que par ailleurs le gouvernement poursuit, et ça... ça pourrit complètement toute la démarche que nous partageons d'ailleurs, qu'il faut absolument voir comment aider les droits de l'homme à devenir une culture dans ce pays. Mais si on veut politiser cette notion-là, eh bien, il va y avoir des gens qui se hérissent, qui croient qu'on utilise ça contre eux, et d'autres qui croient qu'ils peuvent utiliser ça comme arme pour conquérir le pouvoir. Parce que même étant dans les associations, ils font de la politique. Et donc, je pense que, dans l'idée de M. Kitenge, nous devons effectivement profiter de tous les espaces qui existent. Et je voudrais vraiment attirer ton attention sur le cadre de concertation. Il ne faut pas maîtriser ce cadre de concertation que le ministre de la Justice a mis en place. C'est là que nous pouvons jeter cette passerelle, oublier nos convictions politiciennes et rentrer vraiment dans la culture des droits de l'homme qui ne peuvent pas être politisés dans le champ de l'électoralisme, etc.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre, de nous avoir accordé de votre temps. Et je rappelle à nos auditeurs que cette émission, aujourd'hui, mercredi, nous aurons une seconde partie à partir de 11h03, le temps de suivre notre flash d'information qui va intervenir d'un moment à l'autre, et nos contacts 081-890-6315 ou pa@radiocapi.net. Et au cours de cette première partie, nous avons eu comme invité le ministre Lambert Mende. Il est porte-parole du gouvernement, mais aussi ministre de la communication et des médias. Nous vous recevons parole aux auditeurs dans sa seconde partie, comme chaque mercredi. Et le sujet au centre de l'émission de ce jour, c'est nous parlons de la situation des droits de l'homme en RDC, avec un nouveau rapport de la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en RDC qui vient d'être rendu public. De ce rapport, il ressort que la situation ne s'est pas améliorée et demeure extrêmement préoccupante, surtout dans l'est du pays. Néanmoins, le rapport reconnaît que des faibles progrès ont été observés, mais ces efforts restent encore insuffisants. Les principaux défis à relever en matière des droits de l'homme en RDC sont les arrestations et détentions arbitraires et illégales, les conditions carcérales, la torture, les mauvais traitements en détention, les violences sexuelles, les violations des droits économiques et sociaux et l'exploitation illégale des ressources naturelles, la situation des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des victimes et des témoins, l'administration de la justice et la lutte contre l'impunité des forces de sécurité congolaises. Et la question qui a lancé notre émission, comment réagissez-vous face à ce rapport? La seconde question, qu'est-ce qui peut être fait selon vous pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC? Et dans cette la première partie que nous avons eue, nous étions avec M. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias, que nous avons remercié. Et nous prenons Dismas Kitenge, qui avait déjà commencé à nous donner des suggestions, des propositions, même des recommandations, parce qu'il fait partie d'une structure de défense des droits de l'homme, le groupe Lotus. Monsieur Dismas, vous étiez en train de donner vos recommandations, mais nous allons d'abord vous garder le temps d'écouter Martin de Bandundu et Amici de Bukavu. Martin, bonjour.
Bonjour madame et bonjour à tous les radio cassés.
Oui Martin, nous sommes dans le cadre des propositions, suggestions. Nous vous écoutons. Quelles sont les vôtres pour pouvoir améliorer la situation des droits de l'homme?
Ok, merci. Avant que je donne des propositions, j'aimerais d'abord vraiment donner un témoignage vécu dans la prison de la ville de Bandundu, ici, sur place. En date du 26 et du 9 mars 2011, il y avait déjà les décès à la prison ici, qui étaient vraiment abandonnés à l'extérieur. On a tenu informé l'autorité de la ville, il n'y avait pas une réaction. Et les cadavres ont fait deux semaines à la mort de l'hôpital général de Bandungo. Et les trois morts-là et les deux morts plutôt ont été enterrés par les jeunes volontaires de la ville de Bandungo. Vous avez compris que vraiment, jusqu'à présent, les conditions carcérales ne sont pas vraiment permises. Et puis, si nous avons fait une visite sur place, si vous voyez comment est-ce que les prisonniers sont détenus, vous verrez 196. Quand on a fait des détenus, mais qui ont seulement 20 actifs pour faire la lessive, tout comme ça, il n'y avait pas de médicaments, les conditions sanitaires, vraiment, c'est catastrophique.
Et quelles sont vos propositions? Vos propositions, allons-y, vos propositions, s'il vous plaît.
Mes propositions, en ce qui concerne les conditions carcérales, j'aimerais que vraiment que l'État congolais soit responsable. Et puis, équipons aussi les prisons, avec les médicaments, tout ça, parce que il n'y a pas de médicaments. Il faut que l'État soit responsable et puis que le gouvernement soit vraiment prompt à suivre tous les cas, parce qu'il ne faut pas souvent toujours dénoncer. Non. Il faut aussi que le gouvernement soit concret.
Merci beaucoup, Martin. Amici, vous avez la parole.
Oui, plutôt ce n'est pas Amici, c'est Souti Nyembo de Kalimo Maniema.
Là, parce que là, on pensait que c'est Amici de Bukavu. Souti, vos propositions.
Oui, je voudrais seulement dire à notre gouvernement de prendre en charge, d'encadrer d'abord les gens qui travaillent aux droits de l'homme, car ces gens-là travaillent beaucoup pour l'intérêt de certains individus, pour l'intérêt des citoyens, et ils travaillent aussi à l'intérêt de notre gouvernement. C'est ce que moi je peux proposer, notre gouvernement encadre les gens des droits de l'homme.
Vous encadrez, c'est un peu vague, les protéger, parce que quand même ce sont des organisations non gouvernementales.
Oui.
Bon, là on a un problème de liaison avec Soupi, mais quand même on a suivi ses propositions. Nous avons un auditeur qui nous a écrit à partir de la Belgique, d'ailleurs il est belge, il s'appelle Henri. Il dit que si nous les Occidentaux et le Haut Commissariat des Droits de l'Homme des Nations Unies reflètent la pensée unique, dite universelle de l'Occident, nous avons toujours été très forts pour épingler les violations des droits de l'homme dans les pays entre guillemets pauvres, c'est ce qu'il écrit. Je ne prends qu'un seul exemple, l'Est du Congo est le théâtre des violations graves des droits de l'homme par les groupes armés de tous bords, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt de la dégringolade socio-économique de nombreux pays du Sud, renforcés par le système politico-économique mondial qui bloque leur processus démocratique. La communauté internationale des pays riches ne peut pas d'un côté exiger le respect des droits civiques et politiques par les pays pauvres et de l'autre cautionner la violation des droits socio-économiques des peuples par l'OMC, les multinationales, la mondialisation néolibérale, qui ignore que le pillage des ressources du Congo profite à l'Occident et alimente la guerre des violations et la guerre et les violations des droits de l'homme à l'est du Congo. Voilà ce que nous écrit Henri, il dit qu'il est belge et qu'il nous écrit à partir de la Belgique. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous allons redonner la parole à Dismas Kitenge parce qu'il était déjà en train de donner des recommandations, des pistes de solutions pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. Dismas Kitenge, vous avez la parole.
Merci madame. Une recommandation importante aussi pour le gouvernement, c'est de contrôler, d'autoriser le contrôle des maisons de détention de l'ANR, de l'Agence nationale des renseignements et de la garde républicaine par les autorités judiciaires compétentes et aussi par les organisations des droits de l'homme et même la MONUSCO. Deuxièmement, c'est procéder à l'arrestation et à la remise à la Cour pénale internationale de Bosco Ntaganda qui est sous le coup du mandat de la CPI. Autoriser une mise en place d'une commission indépendante d'enquête sur le décès en détention de M. Armand Tungulu et aussi favoriser le processus de l'adoption d'une loi de mise en œuvre du statut de Rome pour renforcer également la lutte contre l'impunité. Et enfin, essayer également aussi de sensibiliser, de vulgariser les lois sur la répression des crimes de violence sexuelle, les lois de 2006. Voilà un peu quelques défis, quelques recommandations claires pour le gouvernement.
Mais à votre avis, c'est vrai qu'on parle de violation des droits de l'homme lorsque ces violations sont commises par l'État, par le gouvernement. Est-ce que vous pensez que la population a un rôle à jouer pour pouvoir éviter ce genre de violations?
Oui, je crois que la population, il faut donner aussi à la population une culture des droits de l'homme. À travers aujourd'hui l'insertion des cours de droits de l'homme dans les écoles, dans les universités, mais aussi dans l'armée, la police. Et madame, je vous ai parlé de l'écart, des cas de l'ANR, de l'Agence nationale de renseignement, la garde républicaine. Il faut que le maison de détention soit également là. Et je suis très content que le gouvernement puisse aujourd'hui commencer à réfléchir sur une loi qui va permettre les poursuites des agents de l'ANR lorsqu'ils commettent des infractions, qu'ils ne soient pas protégés aujourd'hui par l'autorisation de l'administrateur général. Moi, je pense que ça aussi, au niveau de la population et du gouvernement, ce sont des défis importants. Mais l'exemple doit être donné d'abord par les gouvernements, puisque c'est les gouvernements qui doivent protéger tout le monde.
Oui, voilà. Donc, vous avez donné toutes ces propositions, même des recommandations. Merci beaucoup, M. Dismas Kitenge, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous faites partie du groupe Lotus, une structure de défense des droits de l'homme. C'est ainsi que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, une émission qui était consacrée, centrée sur l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC. Nous disons encore une fois merci au ministre qui nous a accordé près de 60 minutes pour participer à cette émission, à tous les auditeurs qui ont donné leur avis et sans oublier ceux qui nous ont suivis, que ce soit en FM ou connectés sur www.radiocapi.net. Merci également à Pierrot et la Mégie, à Titine Poutou, à Jeff Goy sous la supervision de Nicole Daka qui ont réalisé cette émission et nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de parole aux auditeurs.
Allô? 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 Tu ne réponds pas?
Et demain, nous allons parler de la loi sur la parité qui est en ce moment en discussion au Parlement. À votre avis, que faire pour encourager les femmes à être compétitives et accéder à des postes de prise de décision? Voilà la question qui va lancer mes émissions de demain. Mais vous pouvez déjà réagir dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Donc on se retrouve demain, mais en tout temps, vous pouvez rester branché sur Radio Capi pour la suite de ces programmes.